Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Eh bien bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au NRV version light ce soir. Vous l'avez compris, après le concert de Radio France, on est très heureux de vous retrouver à la fois dès 18h en avant-première sur franceinter.fr et exceptionnellement ce soir à partir de 23h15 jusqu'à minuit à l'antenne comme tout le monde. Ce soir, une émission d'enfer avec Élodie Bouchèze en tragédienne dans Les Sorcières de Salem au théâtre, manipulatrice, affabulatrice, calculatrice. On ne vous a jamais vu comme ça. Élodie Bouchèze, bonsoir.
Bonsoir.
À vos côtés, Lou Genet, qui fait fort pour son premier film de cinéma, Curiosa, érotisme, adultère, émancipation féminine, pour le portrait d'une femme à la fin du 19e siècle, Marie de Régnier, maîtresse de Pierre Louis et écrivaine sous pseudonyme masculin, Lou Genet, bonsoir.
Bonsoir.
Il y aura de l'algorithme ce soir dans l'air avec vous, Marion Guilbeault.
Un algo funky et piano, c'est celui d'Élodie Bouchèze.
Parfait. Le NRV, eh bien c'est parti.
France Inter. Le nouveau rendez-vous. Laurent Goumard.
Sorcière et glissement progressif du plaisir ce soir avec vous deux, Élodie Bouchèze au théâtre dans Les Sorcières de Salem, Lou Genet au cinéma avec le premier film de cinéma Curiosa. Vous vous connaissiez l'une l'autre ?
Non. On ne se connaissait pas.
On s'apprécie, en tout cas, j'apprécie votre travail, Élodie.
Et moi, je suis très pressée d'aller voir votre film.
Alors, le film est sorti en salle aujourd'hui. Vous êtes allée en salle pour voir ce que ça donne ?
Pas encore. Je suis avec vous, mais ça va venir.
Mais vous n'êtes pas allée à 9h au hall, comme les autres, pour voir ce qui se passe dans les salles ?
Non, parce que je suis au MK de Beaubourg et c'est cet après-midi que ça commence.
Que ça commence, très ouais. Bien. Élodie Bouchèze, un souvenir de la première fois que vous vous êtes vue, vous, à l'écran ? C'était pour Stan de Flasher. Hein.
La première fois que je me suis vue dans un film, oui, c'était Stan de Flasher qui était mon premier film.
Gainsbourg.
Voilà. Mais avant, j'avais participé à des publicités, en fait.
Et à des courts-métrages aussi.
Oui.
Ouais. Ouais. Comment vous étiez trouvée ? La première fois qu'on se voit sur un grand écran, c'est différent quand même que
oui,
des publicités
oui,
ou
courts-métrages. On grince un peu des dents, quoi. C'est compliqué parfois de se voir. Ça le devient de moins en moins. Là, j'ai plus vraiment de mal à me voir à l'écran. Mais je me souviens que ce qui était compliqué et ce qu'il reste encore parfois, c'est la voix. C'est ma voix.
C'est vrai ?
D'entendre ma voix, oui.
Elle a évolué depuis le temps ? On n'est pas allé rechercher d'ailleurs des images d'archives.
Ah oui, mais... elle a changé. Elle a changé. J'avais une toute petite voix.
Vous l'avez travaillée pour qu'elle baisse de...
Ah non, 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 pas du tout. Pas du tout, mais la vie a fait son travail.
Les cigarettes,
les cigarettes, l'alcool, etc. En fait, Stan de Flasher, c'était en 89, donc ça va faire 30 ans, 30
oui.
ans de carrière, un prix d'interprétation à Cannes, deux Césars, nommé encore au dernier César pour Pupille, une carrière aussi américaine dans des super séries, Alias et The L World. Vous n'avez pas été tenté d'en faire plus aux États-Unis ?
Je prends ce qui arrive comme des cadeaux. J'ai pas été très ambitieuse aux États-Unis au moment où j'aurais pu vraiment profiter de ce qui se passait pour moi à l'international. J'ai vu tout de suite que j'avais pas forcément envie de tout recommencer à zéro là-bas et que la manière de faire n'était pas la nôtre et que ça me plaisait un peu moins. Mais tout ce qui est arrivé à moi. Je l'ai accepté comme des cadeaux et des expériences assez fondatrices.
Vous n'êtes pas du genre à aller taper aux portes pour trouver les rôles, contacter, comme certaines comédiennes, contacter les metteurs en scène. Vous attendez qu'on vous appelle.
Oui, c'est pas vraiment dans ma nature. J'attends pas forcément. Je témoigne mon admiration à mes collègues, réalisateurs, acteurs, metteurs en scène. Lorsque j'ai vraiment été transportée par leur travail. Mais c'est vrai que j'ai plutôt tendance à vouloir laisser la vie et les désirs faire leur œuvre, en fait.
Alors aujourd'hui, vous êtes au théâtre, dans Les Sorcières de Salem, d'Arthur Miller, dans une mise en scène d'Emmanuel de Marcimota. C'est au Théâtre de la Ville, Espace Cardin. Quatrième pièce de théâtre, la troisième, on en parlera avec Emmanuel de Marcimota. Mais là encore, vous êtes arrivé tard au théâtre, vous appréhendiez ?
Non, j'appréhendais pas du tout parce que c'était d'ailleurs ce que je pensais, ce que je rêvais, ce que j'imaginais de faire lorsque j'ai eu le désir très jeune de devenir comédienne. C'est-à-dire que moi, ne venant pas du tout du milieu du show business, je pensais vraiment que j'allais si j'en avais la chance, creuser mon petit sillon à travers le théâtre. Et en fait, voilà, le destin, on a fait autrement. J'ai été happée par le cinéma très jeune. Et puis, il y a eu pas mal de temps avant que des propositions qui m'intéressent vraiment au théâtre arrivent à moi.
J'imagine que le théâtre privé avait fait appel à vous à ce moment-là,
oui,
bien avant, c'est ça?
Oui, oui, tout à fait. Et c'est vrai que je sais pas vraiment ce qui m'intéressait. Donc j'ai attendu.
Pas envie de jouer dans Bling Bling ou des choses comme ça, c'est ça?
Ben non, a priori non. Mais voilà, j'ai été patiente. Et puis, j'ai attendu et j'ai bien fait d'attendre.
Ça paye, oui. Lou Genet, c'est votre premier film de cinéma, mais il y a eu toute une carrière avant, notamment à la télévision. Ça a été difficile de changer de registre, d'arriver au cinéma?
Ah oui, ça a été très difficile d'arriver au cinéma, bien que je sois sortie de l'IDEC très jeune, parce que malgré cette formation de cinéphile et mes intérêts et mes amours, j'ai eu cette chance, en fait, dans ma génération, à 30 ans, de réaliser très facilement des téléfilms que j'avais écrits. Et j'étais fière et j'étais aussi naïve parce que je pensais qu'à l'instar des réalisateurs britanniques, j'allais pouvoir passer de l'un à l'autre. Seulement, ça ne s'est pas passé comme ça. En fait, j'ai fait presque coup sur coup 4 films qui étaient des films personnels à la télévision sur des sujets qui m'intéressaient. Et à chaque fois, j'avais envie de me mettre un peu en danger, faire une comédie sociale, traiter du thème de l'inceste, de faire une comédie avec des animaux alors que je suis allergique aux chats et aux chiens. Voilà, j'avais envie de faire quelque chose qui soit différent à chaque fois. Et puis après, je me suis rendu compte qu'on engageait moins les réalisatrices, mais qu'on m'engageait surtout comme scénariste. Alors ça, j'étais pas vraiment d'accord.
Et pour le cinéma?
Non, pour la télévision. Ouais. Et donc, c'est comme ça qu'est née cette passion que j'ai depuis toujours pour la photographie, des grandes rencontres humaines de Willy Ronis, le photographe humaniste. Je me suis dit, je vais écrire un film et je suis tombée complètement par hasard sur mon sujet. Donc voilà, j'arrive à la bibliothèque de l'Arsenal, qui est mon second bureau. On n'a pas Internet, on est tranquille. Et je tombe sur les photographies de cette jeune femme, Marie Drénier, qui regarde droit dans l'objectif. Et on se dit, mais qui fait la mise en scène, quoi? Est-ce que c'est son photographe, l'écrivain Pierre Louis, ou est-ce que c'est elle? Et ce qui me paraissait très singulier, c'est que elle fait la mise en scène et elle emmène son amant chez son mari pour qu'il la prenne en photo nue dans l'appartement conjugal. Donc je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette pétroleuse? Il y a de quoi.
Fin 19e siècle. Hein.
Voilà, bien sûr, en 1895, c'est la fille de José María de Heredia. Tout ça évolue dans un monde très littéraire. Mais je sentais bien que c'était un sujet très casse-gueule et qu'il fallait vraiment que j'aie un angle radical, qui est celui de la photographie.
Pour pouvoir aller du côté du cinéma, on va en parler dans quelques instants. On vous a demandé à chacune des sons pour faire plus amplement connaissance. Ça part du côté de la radio pour vous, Élodie Bouchez. C'est bizarre, moi ça me rappelle plutôt la télévision, ce générique. Celui du...
Top 50. Oui, c'est vraiment une de mes Madeleines de Proust, c'est-à-dire que c'était le samedi, hein, ouais. Il me semble. Je prenais des cours de danse tous les samedis à Paris, j'habitais en banlieue et ma mère m'accompagnait à mes cours de danse. Et donc, quand on revenait du cours, dans la petite Austin mini de ma mère, c'était l'heure du top 50 ce samedi soir et c'était... une émission culte et puis c'était ce décompte vers les plus gros tubes.
Les premières places, voilà c'est ça.
Ça accompagnait ce trajet, mon retour du cours de danse du cœur de Paris à la banlieue.
C'était sur Europe 1 à l'époque. Vous aviez des tubes préférés à ce moment-là?
Oh oui, ben oui, j'imagine que j'en avais. Enfin, j'ai plein de souvenirs comme ça de... Enfin, là, par exemple, je pense au générique de Rocky, par exemple, L'œil du tigre.
L'œil du tigre, Eye of the Tiger.
Voilà, ouais. Enfin, des gros tubes comme ça qui
ah
étaient
oui, gros
vraiment,
tubes qui tâchent, oui.
Voilà, qui étaient vraiment...
Là, c'est le top 50, hein.
Bah ouais, c'était le top 50. Oh, mais il y avait tout dans le top 50.
Il y avait tout, c'est vrai.
Ouais,
tout.
Mais c'est vrai que j'ai cette culture-là, moi.
Télé italienne pour vous, Lou Genet?
«
C'est la première fois qu'on entend ce son ici, parce que chaque fois on demande des sons à nos invités. Alors là, c'est une première. C'est quoi ?
C'est le Carosello. Alors le Carosello, c'était le générique des publicités en Italie. J'ai ma marraine qui a épousé un Italien, donc j'ai 5 cousins italiens. Et enfant, me voilà partant en avion toute seule rejoindre ma famille de Vérone. Je suis dans leur maison. Et on regarde la télévision comme un spectacle. Il y a des majorettes, il y a des rideaux qui se lèvent, il y a des éléphants. Les publicités sont quand même réalisées par les grands réalisateurs italiens de l'époque, Vittorio De Sica. C'est fabuleux et c'est un spectacle qui dure 30 minutes.
Ah oui, quand même.
Et c'était le soir, je crois, c'était l'été. Et pour moi, c'est vraiment un souvenir extraordinaire. Je suis vraiment encore... Et j'ai trouvé... En Italie, ces vieilles émissions, c'est ma Madeleine de Proust à moi. Oui.
Tout de suite, je vous propose d'écouter Georgia Smith. C'est la nouvelle voix du R&B, The One, dans l'énervé.
Never had to work for love. Don't need you to show me how. Don't wanna be falling in when I'm falling out. Didn't think I'd give for love. Every time I hold it back. Nothing's lost in my head. I'm trying to find who I am. There's choosers, there's takers, there's begging, heartbreakers. I don't wanna be that way. I don't wanna feel this way when I meet someone. I don't want to need no one. I'm not trying to let you.
Que la lumière de Dieu me pénètre. J'ai dansé pour le diable. Je l'ai vu. J'ai signé mon nom dans son livre. Mais maintenant je reviens à Dieu et j'embrasse sa main charitable. J'ai vu Sarah Good avec le diable. J'ai vu Madame Osborne avec le diable. J'ai vu Brigitte Bishop avec le diable.
Le nouveau rendez-vous sur France Inter.
Et c'est vous, Élodie Bouchèze, qui dénoncez tout le monde dans Les Sorcières de Salem, la pièce d'Arthur Miller de 1953, dans une mise en scène actuelle au Théâtre de la Ville, signée Emmanuel de Marcimota. On se souvient du film de 57, il y avait Simone Signoret, Yves Montand, Mylène de Mongeau qui jouait Abigail, votre personnage. Vous avez vu le film ?
Non, je n'ai ni vu celui-ci, ni le film américain.
Ni le film américain. Non. Vous êtes protégée de ça, pas la peine.
Oui, je veux... Emmanuel de Marcy m'a pas spécialement conseillé de les voir.
Les sorcières de Salem, en vrai, ça se passe à Salem, en Nouvelle-Angleterre, en 1792. Mais Emmanuel de Marcimota n'a pas voulu dater l'action. Il a préféré un temps indéfini, ça se voit dans les costumes. Alors c'est l'histoire d'un village victime de la folie mensongère de jeunes femmes, des adolescentes, servantes, la fille du révérend, qui joue à des jeux de divination. Et un jour, ça va mal se passer. La fille du révérend tombe en léthargie. Dans le village, on commence à parler de sorcellerie, de satanisme. Et les filles, pour ne pas être punies, accusent des gens du village d'essayer de les envoûter. Et à la tête de ces jeunes filles, il y a Abigail, votre personnage. On va faire sa carte d'identité. Son âge ?
C'est une jeune fille. Jeune fille.
Post-adolescente.
Toute jeune femme, ouais.
Situation professionnelle ?
Elle est donc recueillie par son oncle. Et elle n'a plus de travail parce qu'elle travaillait comme servante auprès d'une famille de fermiers dont elle est tombée follement amoureuse de l'homme de cette famille.
Signe particulier pour ce personnage ?
C'est un personnage complexe, qui va se révéler diabolique, en quête d'absolu, dévoré par une passion débordante.
Vous aviez-vous des idées sur ce personnage, d'en faire une tragédienne ?
Je ne sais pas si c'est une tragédienne. Elle passe par tellement de phases, en fait, par tellement d'humeurs, par tellement de visages et même de corps, quelque part, que je crois qu'elle est riche et qu'on en a fait un personnage à jouer très, très riche.
Vous connaissiez cette pièce ou l'histoire qu'il y a autour, Lou Genet ?
J'avais entendu parler du film de Simone Signoret, mais non, je ne la connais pas, mais je connais un peu le problème des sorcières avec l'histoire de la lettre écarlate, hein, qui fait référence aussi à des histoires de suspicion, comme par hasard, contre les femmes. C'est très intéressant, cette histoire de sorcellerie et de complexité, comme s'il fallait être sorcière pour être complexe.
Oui, et ce qui est assez étonnant, je trouve, avec ces sorcières de Salem, c'est que moi-même, quand Emmanuel m'a parlé de ce projet, j'avais une idée préconçue de ce qu'allait raconter cette histoire. Et j'avais cette idée que, justement, on allait accuser sans doute des jeunes filles de sorcellerie à tort. Et la pièce est beaucoup plus complexe
retorse
que ça. Et je trouve que ça fait du bien en ce moment.
Parallèlement, on vous a revu au cinéma dans Pupille, un rôle très fort. Et je me suis dit que ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas vu dans un rôle central dans un film. Vous étiez chez Quentin Dupieux, vous étiez dans le film Guy, mais un rôle central, ça, vous avez mis du temps avant de revenir à cela. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous ?
Ben, c'est vrai que je me suis baladée avec grand plaisir dans des films qui m'ont passionnée, avec des cinéastes que j'admire et qui m'inspire, comme Dupieux, comme Ramsey, comme Alex Lutz, où j'ai pu avoir des partitions qui étaient vraiment ce que j'avais envie de faire. Mais c'est vrai qu'on ne me proposait rien de passionnant au cinéma en rôle.
En rôle où il faut tenir un film aussi,
voilà,
sur ses épaules. Ouais.
Et donc j'ai attendu. J'ai attendu, encore une fois, patiemment que ça arrive, et puis c'est arrivé.
Quand vous avez commencé, quelle actrice vouliez-vous être ? Il y avait des modèles ? Il y avait des références pour se projeter ?
Je ne pense pas que j'avais vraiment de modèles ni de références, parce que je ne viens pas d'un milieu ultra cinéphile. Moi, j'ai grandi en banlieue avec les centres commerciaux et les films américains en VF, ou les films à la télé, géniaux, Louis de Funès, Pierre Richard. Donc ça, c'est ma culture. Les Bronzés, évidemment, et tout ça. Et donc, c'est que plus tard, c'est que quand j'ai commencé à être actrice et à faire du cinéma que j'ai été initiée à des films et à des actrices qui m'ont inspirée. Mais voilà, je pense que pour répondre, je pense que j'avais envie d'être l'actrice que je suis devenue, c'est-à-dire de faire des choix qui étaient mes choix de cœur et des choix de passion, en fait.
Vous avez appris au cinéma ? Il n'y a pas eu de formation dans des écoles, dans des cours ?
Non, j'en ai pas vraiment eu le temps.
Ah ouais, c'est ça, parce que très jeune, le cinéma vous a happé.
Oui, alors j'ai suivi un bac d'études théâtrales. Et puis j'ai commencé une fac d'études théâtrales à Nanterre, mais bon, voilà. J'ai...
Déconnecté de la pratique généralement, oui, l'étude de texte.
Oui, oui. Ouais. Et puis bah, très vite, j'ai commencé à faire beaucoup de cinéma. Donc j'ai appris, oui, sur le tas.
Et donc sur un plateau de théâtre, vous avez quand même trouvé vos marques rapidement, quand ça a commencé il y a à peine 10 ans?
Oui, alors le premier projet que j'ai eu la chance de faire au théâtre, c'était l'adaptation du livre de Sylvie Testu. Ouais. Gamine, qu'elle avait adaptée en pièce de théâtre, qu'on avait créée au Théâtre de la Croix-Rousse à Lyon, où je jouais son rôle. Elle mettait en scène, elle ne jouait pas dans la pièce. Et c'était vraiment super. Et puis quelques années après, j'ai rencontré Emmanuel pour d'ailleurs reprendre le rôle de Sylvie Testu dans Casimir et Caroline de Don von Horvath. Et c'est vrai que quand on s'est rencontré avec Emmanuel, il m'a dit est-ce que tu te sens capable d'être là, dans mon théâtre, sur cette scène, devant 1000 personnes? Est-ce que tu te sens capable de cette voix, de cette portée-là? Et je lui ai dit, je sais pas. Essayons. Et puis on a essayé.
Et ça fait 3 pièces que ça dure.
Voilà.
C'est actuellement donc au théâtre de la ville Espace Cardin. C'est jusqu'au 19 avril. On va parler chansons tout de suite avec vous, Élodie Bouchez.
Bonjour.
Bonjour.
Je vais voir Marion.
Vous avez rendez-vous?
Rendez-vous.
On peut avoir de la musique?
Bien sûr.
Je vois que vous êtes recommandé par Stevie Wonder.
J'adore Tom Waits.
Phil Collins, Kate Jarrett.
Le nouveau rendez-vous.
Vous aimez Mozart?
Oui. C'est lequel?
Le dernier.
Sur France Inter.
On vous a entendu chanter dans le film d'Alex Lutz, Guy. Vous aviez même ici chanté dans la première émission qu'on a fait fin août.
Super.
Ici, c'était super.
Un petit live pour
et aujourd'hui, c'est l'algorithme de Marion Guilbeault.
L'algorithme, je vous rappelle le principe, je fouille dans votre ADN musical et j'essaie de vous proposer quelque chose de nouveau à découvrir. Alors vous, votre algorithme, Élodie Bouchez, il commence instrumental, il commence piano-piano avec un musicien qui crée du romanesque en jouant sur le minimalisme et la répétition. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu, c'est Mike, oui. C'est Philip Glass, Mad Rush, une pièce de 1981. Je crois que vous avez pris des cours de piano dans votre enfance.
Oui, j'ai pris des cours de piano comme plein d'enfants, mais j'étais pas douée. J'avais pas des professeurs qui m'ont inspirée. Et puis j'ai développé mon oreille il y a peu de temps. En fait, c'est ça qui m'a permis d'ailleurs de chanter avec Alex, parce que j'en ai eu envie à un moment. Je me suis dit mais c'est pas possible de ne jamais chanter, ne serait-ce que sous sa douche ou une chanson à ses enfants. Et voilà, j'ai commencé à prendre des cours de chant et j'ai repris des cours de piano d'ailleurs.
Du piano donc avec Philip Glass, Glenn Gould, Keith Jarrett, des musiciens atypiques, habités, qui ont amené cet instrument un peu plus loin que ses 88 touches. Autre information très importante dans votre ADN musical, c'est une information live, celle-là, avec un homme vêtu de pourpre, fou de chemise à jabot et de guitare lyre, un artiste disparu en 2016 et non remplacé depuis parce que irremplaçable. Ship explodes and everybody still wants to fly. Some say man ain't happiness, man truly dies. Oh, I time. Prince.
Oui, Prince.
C'était votre premier concert,
paraît-il. Sign of the Time, oui, c'était c'est le premier concert où je me suis rendue avec mes parents. Je crois que ma mère avait eu des places par son comité d'entreprise et il m'avait emmenée voir ce concert à Bercy. Et c'était dingue, c'était une révélation.
C'était une révélation. Vous continuez à aller au concert?
Oui, bien sûr.
Vous êtes allé voir quoi récemment?
Récemment, j'y suis pas allée depuis un certain temps. J'aime beaucoup le groupe de rock metal qui a fait l'objet de ce drame au Bataclan.
Eagles of Death Metal.
Mais c'est vrai qu'il y a eu un concours de circonstances de vie qui a fait que je devais me rendre à ce concert et je ne m'y suis pas rendue, grâce à mes enfants, en fait. Je pense à ça quand je pense aux salles de concert. Oui.
Alors, dans votre ADN musical, j'ai trouvé aussi beaucoup de soul, beaucoup de funk, Radiohead, de l'électro casqué, bien sûr, de l'électro peluché aussi avec Mister Oiseau, et puis quelques chansons de Gainsbourg, sans doute. Alors, je vous propose de découvrir l'univers d'un très jeune artiste. Il est suisse, il est pianiste de formation, c'est un fou de skate, il est parti à 17 ans en Californie rider, comme ça pendant un temps. Il a fait du théâtre, il est curieux, il est inspiré. C'est un fan de Daft Punk et de Bukowski. C'est un jeune homme qui a du goût, donc. Et comme beaucoup de millénials, il propose un projet hybride à 360 degrés, musique et vidéo dans son cas. C'est une musique qui se danse et qui questionne, comme Prince en son temps, une sexualité masculine ambiguë et l'image de chanteur.
You don't know. You don't know.
Il s'appelle Nelson Beer. Le titre c'est I'm a Woman. Plutôt bien vu son
bien
projet. Hein.
Bien vu, ouais.
Voilà. C'est son premier single, ça sort vendredi. Un autre arrivera en juin avant une mixtape à l'automne. Il sera en concert au Petit Bain à Paris le 3 mai, au festival Cabourg Mon Amour le 29 juin. Est-ce qu'il mérite votre attention, ce Nelson Beer?
Oui, tout à fait. Ouais, ça sonne.
Voilà, ça sonne bien. Mmh. Je vois très bien que ça peut marcher, cet algorithme. Merci Marion, on se retrouve la semaine prochaine.
À bientôt.
Merci.
France Inter. Le nouveau rendez-vous.
Alors, est-ce vrai ce que l'on dit, c'était vraiment le plus beau jour de votre vie?
Je n'ai pas pu être ton mari, alors je serai ton amant. Je vais t'apprendre tous les vices, Madame de Régny, même ce dont tu n'as pas idée.
Sachez qu'il m'importe d'être photographié dans des poses que la morale réprouve.
Laurent Goumard.
Que la morale réprouve.
Ça donne une idée de ce personnage de femme au centre de votre premier film de cinéma, Lou Jeunet. Curiosa, c'est sorti en salle aujourd'hui. Cette femme a existé. Marie de Heredia, fille du poète José Maria de Heredia, qui va épouser pour des questions d'argent, parce que le père n'est pas très fortuné, enfin disons qu'il a des dettes, le poète Henri de Régnier, alors qu'elle vit une passion sexuelle, amoureuse, flamboyante pour un autre écrivain, libertin, érotomane et photographe, Pierre Louis. Un film sur cette femme pas comme les autres, qui va vivre sa sexualité, de l'adultère de façon frontale, et une carrière d'écrivain à part, bande-annonce.
J'étais prêt à tout pour l'épouser.
Même à trahir une amitié.
Qui est cette femme avec Pierre? Elle est sublime.
Tu as d'autres maîtresses, c'est ça? Tu crois que je t'aimerais mieux si j'avais d'autres amants?
Fais jamais ça, mouche. Jamais.
Oublie Pierre. Henri est ton mari.
J'ai peur de la laisser seule. Elle m'a dit qu'elle songeait au divorce.
Je ne vous aime pas!
Je ne vous aime pas. J'ai commencé à écrire.
On sent que vous parlez de vous. C'est moderne.
Tout le monde aime les histoires d'amour.
Surtout quand elles sont scandaleuses.
Je vous ai scandalisé.
Pas mal la musique pour un film d'époque.
Oui, la musique d'Arnaud Robotini.
Oui,
j'ai eu beaucoup de chance.
Celui de 120 battements par minute, celui de Stern Boys. Oui, tout à fait.
Voilà.
C'était important d'avoir une musique qui déconnecte comme ça l'idée qu'on peut avoir du film en costume.
Eh bien oui, d'autant que sur le tournage, j'ai mis beaucoup de musique. Nous avons mis du playback et c'était un peu mes hits de ma jeunesse, on va dire, de Kraftwerk à Last Night a DJ Saved My Life.
Donc pendant que tout le monde était corseté, on entendait ça sur... Pendant le tournage?
Oui, parce que je trouve que la mise en scène, c'est un travail sur le corps. Moi, je viens de la danse et que c'est comme ça que j'ai envie de donner envie aux acteurs d'interpréter leur rôle. On avait par exemple une séquence montée d'escalier. C'est un film de couloir et d'escalier, de papier peint. Il n'y a pas de calèche, il n'y a pas de chevaux.
Non,
donc
pas de calèche, pas de chevaux pour un film. Ça, c'est pour le producteur, c'est génial.
C'était aussi non seulement une question de budget, mais une question aussi de sujet, de photographie, d'être toujours très près des personnages. Et en fait, la musique fait passer un courant d'air dans le film. Et quand on monte ces escaliers de l'opéra, j'imaginais vraiment une musique électro. Et avec Arnaud, on s'est amusé à retourner à nos amours de New Wave, à faire quelque chose de très différent de 120 battements. Et il a travaillé aussi beaucoup avec les pièces de Debussy qu'on entend dans le film, en utilisant des instruments comme le gamelan, qui était tout nouveau à l'exposition universelle en 1900. Donc c'était s'amuser de contemporain et de 19e.
Quelle danse pratiquiez-vous ?
La danse contemporaine. Mais j'ai fait du classique avant, comme une petite fille que sa maman amenait en voiture aussi le mercredi. Oui, ça a été mes premiers pas. J'ai très vite compris que je ne serais jamais danseuse. Et c'était la chorégraphie qui m'intéressait, voir les chorégraphes, les entendre parler.
Mais la chorégraphie, elle est présente dans le film. Il suffit de voir comment vous faites poser justement vos personnages, et notamment cette femme qui est au centre de l'écran et aussi au centre de l'objectif de son amant. C'est la photographie érotique qui vous a plu pour ce sujet ?
Alors en fait...
La place de la femme dans la photographie érotique quand elle prend elle-même son sujet en main ?
Justement, c'était très délicat ça, parce que les photographies érotiques, comme le cinéma pornographique, c'est vraiment l'invention de la photographie, l'invention du cinéma. Mais la plupart du temps, les femmes se cachent le visage, sont contraintes, ont honte. Et ce qui m'a vraiment subjuguée, c'est ce regard, le regard de Marie. Et je trouvais qu'il y avait un vrai lien avec la peinture de l'époque, la peinture des Nabis, la peinture de Bonnard, la peinture de Vuillard, les nus. Et ça a été une vraie gageure, justement, dans le travail que j'ai fait avec Noémie Merland, qui joue Marie Drénier, qui a un rapport à la pose qui est exceptionnel. Elle a été très fugacement mannequin, mais c'est loin d'être l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi. C'est parce que je trouvais qu'elle avait une manière jamais exhibitionniste de poser. Et d'ailleurs, ça a été mon processus de travail avec les hommes et avec les femmes sur le film. Je faisais des essais avec une photographe femme. Je filmais en fait les essais des derniers acteurs sélectionnés pour comprendre un peu comment on allait travailler ensemble.
Vous avez fait la même chose avec Camélia Jordana, qui joue nue aussi dans le film ?
Absolument, et j'ai bien prévenu Camélia, t'es consciente Camélia qui a 25 ans, tu prends de gros risques, t'es prête à jouer ce personnage, parce que le personnage de Zohra Ben Brahim a la sexualité, je dirais...
C'était la maîtresse de Pierre-Louis.
Oui, ouais. Zohra est la maîtresse de Pierre-Louis, mais... À cette époque, il y a quand même ce côté extrêmement déplaisant de l'objet colonial. Elle est comme son chat égyptien. C'est cette manière dont il parle d'elle dans les textes. Mais moi, avec Amélia, on voulait donner une image très différente. Je lui parlais d'ailleurs de Beyoncé et de Rihanna pour ses séquences de danse, parce que je trouvais qu'il fallait qu'il y ait cette espèce de sexualité, de liberté aussi qu'avait la vraie Zohra Ben Brahim. C'est-à-dire, elle a vu les lumières de la ville, elle était analphabète, elle a eu accès à tout le Paris intellectuel, elle était l'amie de Debussy, on la voit fumer des cigarettes avec Debussy dans les photographies de Pierre-Louis. Et cette femme a été tout d'un coup, après le mariage, puisque Louis va épouser la sœur de Marie, quelque chose qui nous paraît totalement délirant aujourd'hui.
C'est-à-dire qu'il épouse la sœur de sa maîtresse.
Exactement. Et en fait...
Et il va les mettre en scène dans des photographies toutes les deux.
Alors ça, c'est un peu mon imaginaire.
C'est dans votre film, oui. Ça, c'est vous.
J'ai pris certaines libertés, parce que ma liberté, c'était de laisser courir mon imaginaire. Et je pensais que ce serait intéressant de partir des photographies et de surtout pas faire un biopic.
Ah ben ça, ce n'est pas un biopic. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Marie de Régnier... D'abord, Marie de Heredia, parce que c'est la fille des Heredia, vient d'une famille très lettrée et un peu bizarre, parce que les Heredia, et vous ouvrez là-dessus, alors je ne sais pas si là encore c'est le fruit de votre cerveau malade, Lougené, mais c'était une maison en trompe-l'œil, c'est-à-dire qu'il y avait un miroir sans teint, le père espionnait ses filles.
Ça, c'est vraiment réel. Ça
fait je vois le Dibouchesse qui est en train de vaciller.
Oui, en fait, ça ne m'a pas échappé dans tous les textes que j'ai lus à l'Arsenal. J'ai trouvé ça, en fait, dans un catalogue d'exposition que Monsieur de Heredia regardait par un miroir sans teint à quel moment il fallait faire son entrée dans le salon où Madame de Heredia, qui jouait merveilleusement par
Amira Khazar, qui est génial,
qui est génial dans le film...
royal.
Qui est royal et qui a accepté de se grossir pour le rôle et de jouer cette mère de famille qui place ses filles pour
comme
rembourser
les dettes. Hein,
ouais. Oui, tout à fait. C'était cette partition qu'on avait envie de jouer avec Amira.
Donc le miroir Santin, ouais.
Alors le miroir Santin, il regardait à quel moment arriver dans la pièce pour que, on disait d'ailleurs, les écrivains disaient à l'époque, Heredia invente un nouvel écrivain à chaque fois qu'il a une fille à marier. Et c'était d'une certaine manière pour faire son apparition. Mais pour moi, comme le thème de mon film, c'est la photographie, je voulais que Pierre-Louis rentre subrepticement dans ce bureau, voit les jeunes filles et entende parler les jeunes filles qui ne savent pas qu'elles sont regardées. Je trouvais que c'était déjà le thème du voyeurisme. Mais il est clair que dans mon film, c'est aussi elle qui est voyeur. Et ça, c'était très important pour moi, qui suis une réalisatrice. C'est que, voilà, les femmes doivent s'approprier leur part d'érotisme.
Et c'est en cela que cette femme serait votre double de fiction, on pourrait dire ? C'est-à-dire que vous-même, vous avez dû avoir à lutter pour imposer votre regard à la télévision et au cinéma ?
Oui.
Le Genet.
Oui, ça a été... moi, je fais partie des premières promotions de l'IDEC où on commence à être quelques filles. Aujourd'hui, il y a la parité dans les écoles de cinéma, mais combien font des films 10 ans ou 20 ans plus tard ? Donc oui, ça a été une bagarre, même si voilà, j'ai pu faire des films et je fais ce film aussi parce que je pense que c'est important que les réalisatrices s'emparent du rapport au désir. J'ai voulu raconter une passion avant tout.
Ben, ça peut arriver après Me Too. C'est presque un film post-Me Too.
Je crois, oui.
Me Too, ça a été un moment important pour vous deux, Elodie Bouchez et vous, Lou Genet.
Moi, je n'ai pas été, je n'ai pas fait partie du mouvement. On m'a pas demandé spécialement d'en faire partie. On m'a contactée de part et d'autre pour savoir si j'avais pu être victime à un moment ou à un autre. Le fait est que j'ai eu beaucoup de chance, que même très jeune, je n'ai rencontré autour de moi que des hommes bienveillants et inspirants. Donc voilà, j'ai eu la chance, moi, de ne pas être victime.
Vous gênez ?
De mon côté, je dirais que je me suis vraiment engagée sur la parité dans le travail. Je fais partie d'une fédération de réalisateurs européens, la FERA, ouais. Où on se travaille sur les réalisatrices... Parce qu'en France, on est vraiment privilégié par le système du CNC. On écrit un scénario, on peut réaliser. Il y a vraiment cet nouvel avantage d'avoir une équipe paritaire et d'avoir un peu plus d'argent pour faire nos films si on engage des femmes. Mais j'aime beaucoup travailler avec les hommes aussi. Et je dois dire qu'en tant que réalisatrice, oui, c'est vraiment le travail qui m'importe. Oui.
Une dernière question sur la façon que vous avez eu de présenter au tout début donc, cette famille de Heredia et donc les jeunes gens qui vont visiter cette famille. Vous l'avez filmé comme une maison close. C'était véritablement l'enjeu.
L'idée, c'était plutôt que l'appartement dans lequel j'ai tourné soit comme que les couloirs soient comme ces familles un peu délirantes du 19e siècle, voire un peu incestueuses. C'est-à-dire que tout le monde se retrouve dans le même couloir. C'est la maison est comme un univers mental. Les papiers peints sont comme un univers mental. Et ce que je trouve très beau avec l'interprétation de Nils Schneider, c'est que il a le courage. J'ai eu vraiment beaucoup de problèmes à trouver un acteur qui accepte aussi d'être nu dans un film.
Ah, c'est vrai ?
Oui, oui.
Les acteurs ont des problèmes aujourd'hui masculins ?
En fait, on demande beaucoup aux actrices d'être nues dans les films. C'est une évidence, ça pose aucun problème. Alors qu'une réalisatrice qui demande à un acteur de jouer nu dans un film...
Et pas de dos.
Et d'ailleurs, j'ai lu dans la presse qu'il porterait une prothèse. Non, il n'y a aucune prothèse dans le film.
Ça, c'est vraiment le meilleur teaser pour le film.
Exactement, il n'y a pas de prothèse et c'est leur vrai poil, leurs vrais cheveux. Et je tiens à dire ça parce que je trouvais qu'aussi, il y avait quelque chose de militant par rapport à nos revendications actuelles, que les acteurs ne soient pas aseptisés comme le montre le cinéma pornographique, par exemple.
Par exemple. Merci Lou Genet. Curiosa, c'est sorti en salle aujourd'hui. Merci Elodie Bouchez, vous restez avec nous pour la dernière partie, c'est-à-dire un peu de French Touch, sexy et allumé. C'est Sébastien Tellier dans le NRV.
Sur ma peau
C'est la désinvolture d'Andy de Sébastien Tellier en 2008, un extrait de son album Sexuality, une programmation de Jean-Baptiste Audibert. Merci Elodie Bouchèze, merci Lou Genet. Pour prolonger le film Curiosa, je signale une exposition des photographies, des essais du film à la galerie Sit Down, c'est à Paris jusqu'à fin mai, et des photographies aussi de Pierre Louis à l'Arsenal. Et bien voilà, le NRV c'est fini pour aujourd'hui et pour cette semaine, car demain, pas d'émission, place au premier grand débat des prochaines élections européennes. On se retrouve lundi, d'ici là, bien sûr, on reste en lien avec Facebook, Twitter, Instagram, avec le hashtag EnervéFi. Avant de nous quitter, encore une information. Toutes nos félicitations à Erwan Desplanques, qu'on avait reçu ici le 9 janvier dernier, lauréat du prix Récamier pour son formidable roman « L'Amérique derrière moi », c'est aux éditions de l'Olivier. On peut réécouter l'émission qu'on avait faite ensemble sur franceinter.fr. La réalisation, c'est Marion Lelay, Juliette Medeviel. La préparation, Virginie Rosic, Corinne Valente, Benoît Lagan, Laure Grand-Besançon et Gaëtan Lévy. À la technique ce soir, Stéphane Boja. Lundi, on se retrouve et on sera là avec lui.
Ça va pas recommencer, Tanguy. T'as 44 ans, il n'est pas question qu'on revive ce qu'on a vécu il y a 16 ans.
André Dussolier, le retour dans Tanguy, le nouveau film d'Étienne Chatiliez. À ses côtés, Sarah Ouramoun, la reine du ring, vice-championne olympique de boxe. Tout est dit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le bonsoir et déjà le bon week-end.